Épilogue. Rapport. Jeudi 27 novembre. Mardi 30 décembre. Le numéro thématique de Millennium sur Hans-Erik Wennerström comportait 46 pages et tomba comme une bombe la dernière semaine de novembre. Le texte principal était signé conjointement Michael Blomqvist et Erika Berger. Les premières heures, les médias ne surent pas très bien comment manier ce scoop. Un texte du même genre, paru un an plus tôt, avait eu pour résultat la condamnation de Michael Blomqvist à une peine de prison pour diffamation et son apparent licenciement du magazine Millennium. Sa crédibilité était donc considérée comme assez faible. Et voilà que le même journaliste revenait dans la même revue avec une histoire chargée d'affirmations bien plus énormes que le texte pour lequel il avait été condamné. Le contenu était par moments si absurde qu'on se posait des questions sur la santé mentale des auteurs. La Suède des médias resta dans la méfiance et l'expectative. Mais le soir, la fille de TV4 joua ses atouts en résumant sur 11 minutes les points les plus forts des accusations de Blomqvist. Erika Berger avait déjeuné avec elle quelques jours plus tôt et lui avait glissé les épreuves en exclusivité. Le scoop lancé sur TV4 éclipsa les chaînes publiques qui n'accrochèrent leurs wagons qu'aux informations de 21h. TT envoya une première dépêche prudemment intitulée « Un journaliste condamné accuse un financier de crime aggravé ». Le texte reprenait l'essentiel du reportage télévisé. Mais le fait que TT ait abordé le sujet déclencha une activité fébrile dans les locaux du journal du matin conservateur et d'une douzaine d'autres grands quotidiens de province ayant décidé de modifier précipitamment leur une avant que les presses se mettent en branle. Jusque-là, les journaux avaient plus ou moins décidé d'ignorer les affirmations de Millennium. Le journal du matin libéral commenta le scoop de Millennium sous forme d'un éditorial écrit par le rédacteur en chef en personne plus tôt dans l'après-midi. Puis le rédacteur en chef s'était rendu à un dîner au moment où les informations de TV4 passaient à l'antenne. Il avait balayé les appels fébriles de son secrétaire de rédaction qui suggérait qu'il pouvait y avoir quelque chose dans les affirmations de Blomqvist, avec la phrase qui allait devenir classique « Sornette, nos gars des pages économie auraient trouvé ça depuis longtemps ». Conséquence, l'éditorial du rédacteur en chef libéral fut la seule voix médiatique du pays, tirant littéralement à boulet rouge sur les affirmations de Millennium. L'éditorial comportait des mots tels que « persécution personnelle »,« journalisme de caniveau »,« attitude criminelle » et réclamait des mesures à l'encontre de ceux qui profèrent des affirmations tombant sous le coup de la loi et s'en prennent à des citoyens honorables. Ce fut cependant la seule contribution de ce rédacteur en chef dans le débat qui allait suivre. La rédaction de Millennium au complet passa la nuit dans les bureaux. Le plan prévoyait que seuls Erika Berger et la nouvelle secrétaire de rédaction, Malou Eriksson, devaient rester pour répondre aux appels éventuels. À 21h, la totalité des collaborateurs y était pourtant encore. Et ils avaient de plus été rejoints par 4 anciens associés et une demi-douzaine de freelances fidèles. Vers minuit, Christer Malm déboucha une bouteille de vin pétillant. Cela lorsqu'un vieil ami en poste dans un des journaux du soir leur communiqua le premier jet d'un dossier consacrant 16 pages à l'affaire Wennerström sous le titre « La mafia de la finance ». Quand les journaux du soir sortirent le lendemain, une traque médiatique sans précédent avait commencé. La secrétaire de rédaction, Malou Eriksson, en tira la conclusion qu'elle allait se plaire à Millennium. Au cours de la semaine qui suivit, la Suède boursière trembla lorsque la police des finances commença à vouloir démêler l'affaire, que les procureurs furent affectés aux enquêtes et qu'un vent de panique déclencha une vague de ventes. 2 jours après la révélation, l'affaire Wennerström se transforma en affaire gouvernementale qui amena le ministre de l'Industrie à se prononcer. La traque ne signifia pas que les médias avalèrent les affirmations de Millennium sans question critique. Les révélations étaient beaucoup trop énormes. Mais contrairement à la première affaire Wennerström, Millennium put cette fois-ci étayer son dossier par des preuves convaincantes en diable. Le courrier électronique personnel de Wennerström et des copies du contenu de son ordinateur avec des mouvements de fonds secrets sur des comptes aux îles Caïmans et dans 2 douzaines d'autres pays, des accords secrets et d'autres bêtises qu'un criminel plus prudent n'aurait jamais laissé sur son disque dur. Il fut rapidement établi que si les affirmations de Millennium tenaient bon jusqu'à la Cour suprême, et tout le monde était d'accord pour dire que tôt ou tard, l'affaire devrait s'y retrouver, alors c'était sans conteste la plus grosse bulle dans le monde suédois de la finance qui est éclatée depuis le crash de Kröger en 1932. En comparaison, l'affaire Wennerström fit paraître bien palichonne les embrouilles de la banque Gotha et l'escroquerie de Trustor. Il était cette fois question d'arnaque sur une échelle tellement vaste que personne n'osait même spéculer sur le nombre d'infractions distinctes à la loi qu'elle mettait en jeu. Pour la première fois dans le journalisme économique suédois, on utilisa des mots tels que criminalité systématique, mafia et règne de gangsters. Wennerström et son cercle proche de jeunes courtiers, d'associés et d'avocats en costume Armani furent dépeints comme n'importe quelle bande de braqueurs de banque ou de trafiquants de drogue. Au cours des premiers jours de la traque médiatique, Mikael Blomqvist resta invisible. Il ne répondait pas aux emails et n'était pas joignable au téléphone. Tous les commentaires rédactionnels furent faits par Erika Berger, qui ronronnait comme un chat lorsqu'elle fut interviewée par des médias suédois majeurs et par des journaux de province importants, puis peu à peu aussi par des médias étrangers. Chaque fois qu'on lui demandait comment Millennium avait pu se trouver en possession de cette documentation interne hautement privée, elle répondait avec un sourire mystérieux qui se transformait rapidement en rideau de brouillard « Nous ne pouvons évidemment pas révéler nos sources ». Quand on lui demandait pourquoi la révélation de l'année précédente sur Wennerström était devenue un tel fiasco, elle devenait encore plus énigmatique. Elle ne mentait jamais, mais elle ne disait peut-être pas toute la vérité. Off the record, quand elle n'avait pas un microphone sous le nez, elle laissait échapper quelques répliques impénétrables, qui, mises bout à bout, incitaient à des conclusions hâtives. Ainsi se développa une rumeur qui prit vite des proportions légendaires et qui disait que Mikael Blomqvist n'avait pas présenté de défense au procès et s'était laissé condamner à une peine de prison de son plein gré, parce qu'autrement ses éléments à charge auraient inévitablement mené à une identification de sa source. On le comparait à des modèles médiatiques américains qui préfèrent la prison plutôt que de révéler une source, et on le décrivait comme un héros en termes si flagorneurs qu'il en fut gêné. Mais ce n'était pas le moment de démentir des malentendus. Tout le monde était d'accord sur une chose. La personne qui avait livré la documentation était forcément quelqu'un dans le cercle de confiance le plus intime de Wennerström. Ainsi débuta un débat accessoire interminable pour savoir qui était la gorge profonde. Des collaborateurs ayant des raisons possibles de mécontentement, des avocats et même la fille cocaïnomane de Wennerström et d'autres membres de sa famille furent désignés comme candidats possibles. Ni Mikael Blomqvist ni Erika Berger ne dirent rien. Il ne commentait jamais le sujet. Erika affichait un grand sourire de satisfaction, et elle sut qu'ils avaient gagné lorsque l'un des journaux du soir, au troisième jour de la traque, titra « La revanche de Millennium ». Le texte était un portrait flatteur du magazine et de ses collaborateurs, illustré en outre avec une photo particulièrement avantageuse d'Erika Berger. On l'appelait « la reine du journalisme d'investigation ». Cela signifiait des points dans la hiérarchie des rubriques « People », et on parlait du grand prix du journalisme. 5 jours après que Millennium avait tiré la première salve de canon, le livre de Mikael Blomqvist, Le banquier de la mafia, fut distribué en librairie. Le livre avait été écrit au cours des jours fébriles à Sandhamn en décembre et octobre, et avait été imprimé à la hâte et dans le plus grand secret chez Alvig Reklam à Morgongava, habituel imprimeur de dépliants publicitaires. Ce fut le premier livre publié chez un tout nouvel éditeur portant le logo de Millennium. La dédicace était mystérieuse. « À Sally, qui m'a démontré les bienfaits du golf ». Il s'agissait d'un pavé de 615 pages en format poche. Le petit tirage de 2000 exemplaires garantissait pratiquement que ce serait une affaire à perte. Mais cette première édition fut épuisée en quelques jours et Erika Berger commanda rapidement une réimpression de 10 000 exemplaires. Les critiques constatèrent que, cette fois-ci, Mikael Blomqvist n'avait en tout cas pas l'intention d'économiser la poudre en ce qui concernait l'indication de ses sources. Ce en quoi ils avaient tout à fait raison. 2/3 du livre étaient constitués d'annexes qui étaient des copies directes de la documentation provenant de l'ordinateur de Wennerström. En même temps que la publication du livre, Millennium présenta sur son site des extraits de ses pages sous forme de données à télécharger en format PDF. N'importe qui s'y intéressant un tant soit peu pouvait lui-même examiner les données. L'étrange absence de Mikael Blomqvist faisait partie de la stratégie médiatique qu'Erika et lui avaient concoctée. Tous les journaux du pays le cherchaient. Pour le lancement du livre, par contre, Mikael se montra dans une interview exclusive réalisée par la fille de TV4, qui put ainsi une nouvelle fois dégommer la télévision publique. Il ne s'agissait pas pour autant d'un arrangement entre amis, et les questions furent tout sauf obséquieuses. Michael fut particulièrement satisfait d'un échange de répliques quand il visionna la vidéo de sa performance. L'interview avait été réalisée en direct, au moment où la bourse de Stockholm était en chute libre et où les morveux de la finance menaçaient de se jeter par diverses fenêtres. On lui avait posé la question sur la responsabilité de Millennium dans le naufrage de l'économie suédoise auquel on assistait en ce moment. Affirmer que l'économie de la Suède est en train de faire naufrage relève du non-sens, avait répliqué Michael du tac au tac. La fille de TV4 avait eu l'air perplexe. La réponse n'avait pas suivi le schéma escompté et elle avait soudain été obligée d'improviser. La question suivante fut exactement celle que Michael avait espérée. « Nous vivons en ce moment le plus gros écroulement individuel de l'histoire boursière suédoise et vous prétendez que c'est du non-sens ? » Écoutez, il faut distinguer deux choses. L'économie suédoise et le marché boursier suédois. L'économie suédoise est la somme de toutes les marchandises et de tous les services qui sont produits dans ce pays chaque jour. Il s'agit des téléphones de chez Ericsson, des voitures de chez Volvo, des poulets de chez Scan et des transports qui vont de Kiruna à Skövde. Voilà l'économie suédoise. Et elle est exactement aussi puissante ou faible aujourd'hui qu'elle l'était il y a une semaine. Il fit une pause oratoire et but une gorgée d'eau. La bourse, c'est tout autre chose. Il n'y a aucune économie et aucune production de marchandises ou de services. Il n'y a que des fantasmes où d'heure en heure on décide que maintenant telle ou telle entreprise vaut quelques milliards de plus ou de moins. Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité, ni avec l'économie suédoise. Vous voulez donc dire que ça n'a aucune importance que la bourse soit en chute libre ? Non, ça n'a pas la moindre importance, répondit Michael d'une voix si lasse et résignée qu'il apparut comme un oracle. La réplique allait être citée plus d'une fois au cours de l'année. Il poursuivit. Cela signifie seulement qu'un tas de gros spéculateurs sont actuellement en train de transférer leur portefeuille boursier des entreprises suédoises vers les entreprises allemandes. Ce sont donc les hyènes de la finance qu'un reporter avec un peu de couille devrait identifier et mettre au pilori comme traîtres à la patrie. Ce sont eux qui systématiquement et sciemment sapent l'économie suédoise pour satisfaire les intérêts de leurs clients. Ensuite, la fille de TV4 commit l'erreur de poser exactement la question que Michael souhaitait. Alors vous voulez dire que les médias n'ont aucune responsabilité ? Si, les médias ont tout particulièrement une énorme responsabilité. Pendant au moins 20 ans, un grand nombre de journalistes économiques ont omis de se pencher sur le cas Hans-Erik Wennerström. Bien au contraire, ils ont contribué à construire son prestige au moyen de portraits idolâtres insensés. S'ils avaient fait leur boulot correctement pendant toutes ces années, on ne se retrouverait pas dans cette situation aujourd'hui. Son apparition signifiait un changement d'attitude. Erika fut peu à peu persuadée que ce fut seulement à l'instant où Michael défendait calmement ses affirmations à la télé que la Suède des médias comprit, bien que Millennium fût en haut de l'affiche depuis une semaine, que l'histoire était en béton et que les allégations fantastiques du journal étaient vraiment réelles. Son attitude avait donné un cap à l'histoire. Après l'interview, l'affaire Wennerström glissa imperceptiblement du secteur économie vers le comptoir des reporters criminels. Cela marqua une nouvelle façon de penser dans les rédactions des journaux. Auparavant, les reporters criminels ordinaires avaient rarement ou jamais écrit sur la criminalité économique, sauf quand il était question de la mafia russe ou des contrebandiers de cigarettes yougoslaves. On n'attendait pas des reporters criminels qu'ils démêlent les événements embrouillés de la bourse. Un journal du soir primait Michael Blomqvist à la lettre et remplit deux doubles pages de portraits d'un des courtiers les plus importants des maisons financières en train d'acheter des valeurs allemandes. Le journal titrait « Ils vendent leur pays ». L'ensemble des courtiers furent invités à commenter les allégations. Tous déclinèrent l'offre. Mais le volume des transactions diminua considérablement ce jour-là. Et quelques courtiers désireux d'avoir l'air de patriotes progressistes commencèrent à ramer à contre-courant. Michael Blomqvist hurlait de rire. La pression fut si forte que des hommes sérieux en costume sombre prirent l'air soucieux, plissèrent le front et péchèrent contre la première règle du cénacle exclusif qui constituait le cercle le plus fermé de la Suède des finances, ils se prononcèrent au sujet d'un collègue. Tout à coup, des chefs de Volvo à la retraite, des patrons de l'industrie et des directeurs de banque se retrouvèrent à la télé en train de répondre aux questions pour limiter les dégâts. Tous réalisaient le sérieux de la situation et il s'agissait de vite prendre ses distances avec Wennerström Group et de se débarrasser d'éventuelles actions. Wennerström, constatèrent-ils presque d'une même voix, n'était sans doute malgré tout pas un véritable industriel, et il n'avait jamais été tout à fait accepté dans le club. Quelqu'un rappela qu'au fond, il était un simple fils d'ouvrier du Norland, à qui ses succès étaient peut-être montés à la tête. Quelqu'un décrivit ses agissements comme une tragédie personnelle. D'autres découvrirent que depuis des années, ils avaient eu des doutes sur Wennerström. Il était trop vantard et avait de bien mauvaises manières. Au cours des semaines qui suivirent, à mesure que la documentation de Millennium était examinée à la loupe et le puzzle reconstitué, le lien fut fait entre l'empire Wennerströmien de société obscure et la mafia internationale qui englobait tout, depuis le trafic d'armes et le blanchiment d'argent issu du trafic de drogue sud-américain, jusqu'à la prostitution à New York et même indirectement au commerce sexuel d'enfants au Mexique. Une société de Wennerström enregistrée à Chypre éveilla une indignation colossale quand il fut révélé qu'elle avait essayé d'acheter de l'uranium enrichi sur le marché noir d'Ukraine. Partout, l'une ou l'autre des innombrables sociétés bidons de Wennerström semblait surgir dans un contexte fumeux. Erika Berger constata que le livre sur Wennerström était ce que Michael avait jamais écrit de mieux. Le contenu était inégal du point de vue du style et la langue était même très mauvaise par moments. Il n'avait pas eu le temps de soigner son écriture, mais Michael rendait la monnaie de sa pièce et tout le livre était animé d'une rage que n'importe quel lecteur ressentait forcément. Par hasard, Michael Blomqvist tomba sur son antagoniste, l'ancien reporter d'économie William Borg. Ils se croisèrent à la porte du Moulin, où Michael, Erika Berger et Christer Malm passaient une soirée de la Sainte-Lucie copieusement arrosée, avec les autres employés aux frais de la princesse. Borg était accompagné d'une fille ivre-morte de l'âge de Lisbeth Salander. Michael s'arrêta net. William Borg avait toujours fait remonter en lui ses pires penchants, et il fut obligé de se maîtriser pour ne pas dire ou faire quelque chose de mal placé. Lui et Borg se mesurèrent du regard, sans prononcer un mot. L'aversion de Michael pour Borg était physiquement tangible. Erika avait interrompu ses manières de macho en revenant sur ses pas, prenant Michael sous le bras et le guidant à travers le bar. Michael décida de demander à Lisbeth Salander, quand l'occasion se présenterait, de procéder à l'une de ses enquêtes sur la personne si délicate, sur Borg, rien que pour la forme. Pendant toute la tempête médiatique, la personne principale du drame, le financier Hans-Erik Wennerström, resta pratiquement invisible. Le jour où l'article de Millennium fut publié, le mania de la finance avait commenté le texte dans une conférence de presse déjà prévue sur un tout autre sujet. Wennerström déclara que ses accusations étaient sans fondement et que la documentation citée était fausse. Il rappela que le même reporter avait été condamné pour diffamation un an auparavant. Ensuite, seuls les avocats de Wennerström répondirent aux questions des médias. Deux jours après que le livre de Michael Blomqvist avait été distribué, une rumeur tenace commença à faire valoir que Wennerström avait quitté la Suède. Les journaux du soir utilisèrent le mot « fuite » dans leur titre. Lorsque, au cours de la deuxième semaine, la police des finances essaya d'entrer en contact officiel avec Wennerström, on constata qu'il ne se trouvait plus dans le pays. Mi-décembre, la police confirma que Wennerström était recherché, et la veille de la Saint-Sylvestre, un avis de recherche formel fut lancé via les organisations policières internationales. Le même jour, l'un des conseillers proches de Wennerström fut arrêté alors qu'il essayait de prendre un avion pour Londres. Plusieurs semaines plus tard, un touriste suédois rapporta qu'il avait vu Hans-Erik Wennerström monter dans une voiture à Bridgetown, la capitale de la Barbade, aux Petites Antilles. Comme preuve de ce qu'il avançait, le touriste envoya une photo prise d'assez loin, montrant un homme blanc portant des lunettes de soleil en chemise blanche déboutonnée et pantalon clair. L'homme ne pouvait pas être identifié avec certitude, mais les journaux du soir envoyèrent des reporters qui, sans succès, essayèrent de pister Wennerström dans les îles antillaises. Ce fut le début d'une traque photographique du milliardaire en fuite. 6 mois plus tard, la chasse fut interrompue. On avait retrouvé Hans-Erik Wennerström mort dans un appartement à Marbella en Espagne, où il résidait sous le nom de Victor Fleming. Il avait été tué de 3 balles dans la nuque tirées à bout portant. La police espagnole suivit l'hypothèse qu'il était tombé sur un cambrioleur.